en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Si les organismes vivants sont sortis de l'eau par hasard, ce n'est pas par hasard qu'ils se maintiennent hors de l'eau. La vie dépend beaucoup des échanges d'eau entre les différents milieux intra- et extracellulaires, fluides internes et monde extérieur. La couche d'eau localisée à la surface des protéines est déterminante, par exemple, pour leurs propriétés fonctionnelles. Vous l'aurez compris, l'Académie des sciences s'est intéressée à l'eau sous toutes ses formes au cours d'une séance en mars 2009 sur l'eau dans les systèmes biologiques. Canal Academy vous retransmet cette séance en deux parties. Retrouvez dans ce second volet les interventions de Denis Le Billon et de Tarek Mounir. Denis Le Billon travaille au CES de Saclay ainsi qu'à la Graduate School of Medicine de Kyoto au Japon. Il est aussi membre de l'Académie des sciences. Sa communication porte sur les membranes, l'eau et la diffusion des potentiels pour la neuroimagerie. Sur le même thème, Tarek Mounir, directeur de recherche au CNRS, qui appartient à l'équipe de dynamique des assemblages membranaires, évoque le rôle et l'importance de l'eau dans les membranes cellulaires. Tout de suite, Denis Le Billon.
Je vais présenter en quoi la molécule d'eau nous intéresse beaucoup pour voir le fonctionnement cérébral. Alors, en fait, faut voir qu'aujourd'hui, en tout cas, la façon dont on regarde le fonctionnement cérébral par l'imagerie est entièrement liée à l'eau. En fait, il s'agit d'un paradigme qui a été mis en évidence il y a un petit bout de temps maintenant par Roy et Sherrington, le fait que quand nos neurones s'activent, eh bien, il y a une augmentation du débit sanguin. Donc au départ, on a eu la caméra à émission de positons, qui est toujours utilisée, mais moins pour étudier le fonctionnement cérébral cognitif, qui consiste à injecter de l'eau radioactive. Elle est rendue radioactive par l'oxygène, qui est l'oxygène 15, et grâce à un cyclotron. Elle est injectée dans la circulation du volontaire ou du patient. Et dans les régions qui sont activées, eh bien, il y a un peu plus d'eau radioactive qui va apparaître. Et grâce à une caméra, on peut la détecter, la mesurer, et comme ça, donc, obtenir des images de l'activation cérébrale. Plus récemment, et c'est la technique utilisée aujourd'hui en référence, avec l'imagerie par résonance magnétique, on utilise toujours le même principe biologique, mais une méthode physique complètement différente, puisque là, c'est de l'eau aimantée qu'on va utiliser. Alors, on n'injecte rien. L'eau, elle est aimantée simplement quand on met sa tête dans un champ magnétique important, dans un aimant. Et bien sûr, à nouveau, quand on va activer une partie du cerveau, localement, il va y avoir une augmentation du débit sanguin. Et en fait, cette changement d'aimantation de l'eau, elle n'est pas directe, elle est indirecte. Dans les globules rouges qui circulent, on a de l'hémoglobine. L'hémoglobine contient du fer, et le fer, selon qu'il est lié ou pas à l'oxygène, va avoir des propriétés magnétiques un peu différentes. Bon, pour simplifier très grossièrement, dès l'instant où les globules rouges vont circuler, l'aimantation qui est autour des vaisseaux sanguins va changer, et les molécules d'eau qui sont là vont également changer d'aimantation. Les changements sont très petits, on ne sent rien, mais grâce à des logiciels informatiques, on peut montrer sur les images et les représenter de façon colorée les régions pour lesquelles l'aimantation de l'eau a changé du fait du processus d'activation. Alors ça marche très très bien, on fait aujourd'hui des images extraordinaires jusqu'à même la conscience. Alors, encore une fois, c'est quand même très très beau, le fait de penser à quelque chose fait changer l'aimantation des molécules d'eau localement via ce principe-là, et c'est ça qui nous permet de faire des images. Alors donc, pourquoi faire mieux? Eh bien parce qu'il y a des problèmes. Tout d'abord, ce paradigme, même s'il est en général vérifié, ne l'est pas toujours. Il n'est toujours pas bien compris. Quelle est la raison pour laquelle l'augmentation de débit sanguin dans l'activation? Est-ce d'origine métabolique pour mettre à disposition des neurones plus de glucose? Alors, certains travaux le suggèrent, mais également, on a une vision plus neurogénique, à savoir qu'il a été montré très, très récemment dans un article de nos collègues que l'augmentation de débit sanguin précédait l'activation, dans certains cas particuliers. Autrement dit, les neurones préparent l'augmentation de débit sanguin bien avant qu'il y ait une demande énergétique. Donc, ça reste encore assez confus. Et d'autre part, on sait aujourd'hui, à la fois sur le plan expérimental et sur le plan humain, qu'on peut très bien avoir un fonctionnement cérébral normal sans augmentation des débits sanguins. Très rapidement, il s'agit d'un patient ici qui a une malformation intervéneuse. Avant traitement, dans la région ici du langage, on n'a aucune activation alors que le patient pense à des mots. Après avoir embolisé la lésion, quelques jours après, on voit que le langage réapparaît. Le patient n'avait aucun trouble du langage, simplement l'augmentation des débits sanguins n'avait pas lieu, peut-être dû à un phénomène de vol. Donc vous voyez que tout ça, ce n'est pas très clair. Et surtout, ce qui nous gêne, nous, pour étudier le fonctionnement cérébral, c'est que l'augmentation de débit sanguin est retardée dans le temps. Hein, vous voyez que ici, c'est une stimulation visuelle de 4 secondes. Le pic est à 6 secondes après la stimulation, alors qu'il y a bien longtemps que la stimulation s'est arrêtée. Bon, là, c'est quand même un peu gênant. Et ça veut dire que la résolution temporelle de ce type d'imagerie est forcément limitée. D'autre part, si on considère qu'un vaisseau sanguin, qu'il soit une petite artère, une petite veine, correspond à un territoire relativement large, en termes de centaines de milliers de neurones, on a également une résolution spatiale limitée. Donc plusieurs équipes essayent de voir s'il n'y aurait pas d'autres moyens pour voir l'activation cérébrale plus directement. Par exemple, en regardant les courants axonaux, alors c'est ce qui est fait en électroencéphalographie et magnétoencéphalographie, mais la précision n'est pas forcément très grande sur le plan de la résolution spatiale. On peut étudier également des ions comme le manganèse, qui est analogue du calcium et qui est visible en IRM, mais il est toxique. Et donc notre approche est d'étudier l'eau pour voir si d'autres propriétés de l'eau pourraient être utilisées pour étudier le fonctionnement cérébral. Alors je vais très très rapidement vous expliquer le principe, mais sans rentrer dans le détail. Un patient qui a une lésion, et la question que par contre le médecin va se poser, de quoi s'agit-il? Donc au niveau, est-ce que du macroscopique au microscopique, on peut avoir une relation? Alors pour ça, en mesurant la diffusion translationnelle de l'eau, dont on a déjà parlé tout à l'heure, on fait l'hypothèse que le mouvement des molécules d'eau dans le tissu, tel qu'il peut être mesuré, comme je vais vous le montrer, par IRM, permet de donner des informations sur la structure qui est sous-jacente. En disant la relation de diffusion d'Einstein, à la température du cerveau, l'eau libre diffuse sur entre 10 et 20 microns. Donc vous voyez qu'on est en plein dans les échelles cellulaires, et donc si on mesure la diffusion, on va avoir des renseignements sur la structure du milieu sous-jacent. Alors je passe très rapidement, le principe est très caricaturalement, c'est qu'on va faire varier le champ magnétique dans l'espace, de gauche à droite, de haut en bas, dans la direction que l'on veut, de façon très, très importante. Dès l'instant où les molécules d'eau vont se promener du fait du moment de diffusion dans ce gradient de champ magnétique, elles vont se déphaser, leur aimantation va se déphaser, ce qui se traduit par une atténuation du signal. Donc grâce à un logiciel informatique, pour chaque point de l'image, on va calculer la façon dont le signal s'est effondré à cause du mouvement et obtenir des quarts de diffusion. Un patient qui a un infarctus cérébral, une région du cerveau qui n'est plus irriguée, et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que la diffusion de l'eau dans cette région-là est très ralentie. Ici, on va revoir ça tout de suite, c'est une carte de la connectivité intracérébrale. Là, c'est une carte donc, d'utilisation de la diffusion de l'eau pour la détection du cancer. Dans les cellules cancéreuses, la diffusion est ralentie. Et enfin, c'était le thème de ma présentation, l'activation du cerveau. Alors, on va revenir sur tout cela. Tout d'abord, donc, il a été découvert que la diffusion de l'eau dans le cerveau n'était pas isotrope, mais anisotrope, à savoir que dans le sens des fibres de myéline, la matière blanche qui relie les différentes régions de matière grise, la diffusion est plus rapide dans le sens des fibres que dans le sens perpendiculaire. Donc, il suffit de mesurer la diffusion de l'eau par le principe que je viens de vous décrire dans un grand nombre de directions pour reconstituer point par point l'orientation dans l'espace. Donc on obtient point par point ces cartes de l'intérieur du cerveau, donc cortex moteur par exemple, on a les ventricules au centre du cerveau et les différentes connexions qui peuvent exister. Ça c'était en 98, en 2000, et voilà aujourd'hui ce qu'on sait faire avec nos collègues. Donc ça c'est la méthode que j'avais développée il y a un petit bout de temps maintenant avec mon ami Peter Basser. Et voilà les images que nous avons ici maintenant avec Cyril Poupon et puis Yann Quanpa. Donc du câblage intracérébral, les images fabuleuses qui nous permettent de reconstituer la façon dont les différentes régions communiquent entre elles. Et encore une fois, là uniquement en observant le mouvement de diffusion de l'eau. Alors on passe maintenant au travail suivant qui faisait déjà référence au fait, comme je vous l'ai dit, dans l'infarctus cérébral, qu'à la phase aiguë de l'infarctus, c'est l'image que tout à l'heure, il y a une diminution du coefficient de diffusion de l'eau, ce qui paraît très curieux. Et en fait, il est connu que selon la variation de taille des cellules, le coefficient de diffusion va être modulé. Quand les cellules se dilatent, grossissent du fait d'une perte d'osmolalité, le coefficient de diffusion diminue, et inversement. D'autre part, quand on hyperstimule le cortex, par exemple avec des ions potassium, on a un phénomène de dépression propagée, spreading depression, à savoir que l'hyperactivation va se propager le long du cortex, et en même temps, on s'aperçoit que la diffusion de l'eau ralentit et se propage également le long du cortex de la même manière. Là encore, on sait qu'il y a un gonflement cellulaire, mais il s'agit d'une stimulation extra-physiologique. D'autre part, il y a toute une littérature complètement indépendante sur le fait que les neurones, quand ils sont activés, semblent aussi changer de forme et en particulier grossir. Alors, ce n'est pas tout le corps du neurone qui grossit, ce sont des morceaux au niveau des membranes. Mais voilà, par exemple, ici, avec un capteur piézoélectrique, l'observation d'un mouvement de la membrane lors de la dépolarisation du neurone. À une échelle un peu plus grossière, voilà une mesure par imagerie optique dans une coupe d'hippocampe activée. Eh bien, vous voyez ici des changements dans la diffusion de la lumière, dans la transmittance de la lumière, qui reflètent des changements dans la structure du tissu. Autrement dit, quand il est activé, le tissu neuronal change de forme. D'où, si vous pouvez simplement regarder cette coupe qui montre, on voit un déplacement très rapide et un retour plus lent vers la ligne de base. Et puis des travaux plus récents également, mais alors à une échelle encore plus macroscopique chez le singe, utilisant l'imagerie optique, qui montre deux types de signaux. Des signaux qui sont liés aux variations de oxy et déoxyhémoglobine, très voisins de ce que l'on voit en IRM fonctionnel traditionnel, et puis des signaux qu'on explique très mal, de light scattering, donc de diffusion de la lumière, qui traduisent pendant l'activation, c'est vraiment synchrone avec l'activation, ça s'arrête exactement après, des changements dans la structure tissulaire. Voilà, alors c'est avec cette hypothèse-là que, d'une part, l'imagerie de diffusion était sensible aux variations de taille cellulaire, et d'autre part, qu'il existe des changements de taille des neurones, de forme des neurones pendant l'activation cellulaire, neuronale, qu'on est allé voir si par hasard on ne pourrait pas détecter l'activation cérébrale par IRM de diffusion. On a été très, non pas surpris, mais au contraire très heureux de voir qu'effectivement le signal d'IRM montait et redescendait à chaque fois qu'il y avait une stimulation. Rapidement, l'augmentation de ce signal traduit une baisse de la diffusion. Si on, par notre logiciel, donc, on demande à nouveau de nous montrer sur l'image point par point les endroits où il y a eu ce pattern, ce changement donc de diffusion, eh bien on s'aperçoit que l'on a très précisément le cortex visuel, bien plus précisément qu'avec la méthode qui repose sur, que j'ai oublié de vous nommer, qui s'appelle la méthode BOLD, pour Blood Oxygen Level Dependent, donc la méthode qui dépend des variations de champ magnétique liées au passage des globules rouges. Voilà, et surtout, ce qu'on a découvert, c'est que non seulement il y avait bien un ralentissement de la diffusion, mais que le timing était complètement différent de la méthode classique. Donc voilà en noir chez un homme maintenant, un volontaire, donc une stimulation visuelle de 10 secondes. En bleu, vous avez la réponse hémodynamique, telle que je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, c'est-à-dire l'augmentation de débit sanguin mesurée par IRM via l'hémoglobine. Et en rouge, le changement de diffusion. Vous voyez qu'il se produit beaucoup plus rapidement et surtout qu'il s'arrête exactement à la fin de la stimulation. Donc on était extrêmement heureux. Il semblerait qu'on a mis en évidence une réponse, un signal qui n'est pas d'origine vasculaire, qui est quelque chose de plus précoce et qu'on a la prétention de vouloir rattacher à un phénomène physique au niveau du tissu neuronal. Bon, malheureusement, les reviewers n'ont pas été toujours aussi convaincus. Nos papiers sont passés quand même, mais j'avoue qu'il a fallu quand même se battre un petit peu. Bien, donc, d'où l'intérêt de la controverse. Alors, si on revient sur la diffusion de l'eau, alors nous, on n'a pas la chance de pouvoir la voir à l'échelle de la picoseconde, on la voit à l'échelle de millisecondes, et c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure à Joe, c'est qu'en fonction de l'échelle de temps et d'espace, peut-on voir des choses différentes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la diffusion de l'eau dans les cellules n'est certainement pas libre, n'est certainement pas gaussienne, malgré le fait que nous faisons cette hypothèse pour beaucoup d'entre nous. Donc en fait, si on regarde l'atténuation du signal en fonction de ces fameux gradients qui sont utilisés pour les mesurer, d'après l'équation pour la diffusion libre d'Einstein, on devrait avoir une ligne tout simplement droite, la pente nous donnant le coefficient de diffusion. On est loin d'avoir une ligne droite, on a une courbure, et cette courbure, on l'explique tout simplement parce qu'il est évident que les molécules d'eau, pendant plusieurs millisecondes, voire dizaines de millisecondes, vont interagir avec beaucoup de choses, les protéines et surtout les membranes. Donc en fait, cette courbe, comme il est tentant pour beaucoup, en général quand on voit une courbe comme cela, c'est l'interpréter par la présence de deux compartiments qui font que l'eau n'est pas libre. Et le problème est de savoir quelle est la nature de ces compartiments. Et c'est là qu'on va aboutir à une petite controverse. Alors la molécule d'eau, maintenant, vous savez par cœur ce dont il s'agit, donc, et surtout le fait qu'on ne sait toujours pas vraiment ce que c'est, donc je vais aller très très vite. On a vu donc la liaison hydrogène, on a vu que l'eau était organisée en tétramère, mais je rajoute quand même une information qui, elle, n'a pas encore été donnée, c'est qu'il semblerait qu'en fait cette structure en tétramère, c'est qu'une moyenne, c'est-à-dire que de temps en temps nous avons un trimère, de temps en temps un pentamère, etc. Et cette distribution des défauts locaux est en fait, serait en fait à l'origine du processus de diffusion des protons. Plus l'eau est structurée, plus on se rapproche d'un tétramère, moins la rapidité de l'eau en diffusion est importante. Plus on va avoir de défauts dans la structure de l'eau, c'est-à-dire moins, plus on va s'éloigner de la structure en tétramère, plus donc il y a ce défaut, et plus la diffusion serait rapide. Donc, on en arrive à cette vision des choses, que l'eau est certainement gênée dans ses déplacements par les membranes, qu'elle pourrait peut-être s'expliquer par un modèle bi-exponentiel. Le problème, c'est qu'au départ, beaucoup d'entre nous avons pensé que c'est simple, il y avait l'eau intra et l'eau extracellulaire. Question de l'eau, l'eau rapide que l'on trouve est de l'ordre de 1,4, donc à peu près la moitié du coefficient de diffusion de l'eau libre, et représente que 60 à 70% de l'eau. Donc cette eau-là n'est pas l'eau intracellulaire. Et inversement, l'eau qui est l'eau lente, qui est de l'ordre de à peu près 8 fois plus petite que l'eau libre, représente 30% de l'eau et ne correspond aussi pas du tout à l'eau intracellulaire, hein, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'elle est de l'ordre de 80%. Donc ce modèle naïf que tout le monde a utilisé pendant quelques années ne colle pas. Par contre, ce que l'on sait, c'est que les variations de taille de la cellule, elles, sont corrélées aux variations de la diffusion. C'est-à-dire donc en fait que ce qu'on observe, c'est que quand la cellule gonfle, le coefficient de diffusion que l'on va mesurer diminue. Comment expliquer tout cela ? Bon, j'étais au Japon, donc c'est pour ça que j'ai mis les sushis, mais peu importe, ce qui compte, c'est que ce sont les protéines. Comme, comme il a été dit à plusieurs reprises tout à l'heure, les protéines, du fait de leur charge, maintiennent une certaine quantité d'eau près de leur surface. C'est l'eau d'hydratation des protéines. D'autre part, dans certains travaux, on soulignait que près des membranes, alors qu'il s'agisse de membranes artificielles, de mica, ou éventuellement de membranes cellulaires, eh bien, la disposition des charges elle-même orientait les molécules d'eau, comme sur les protéines, mais simplement le fait que ces structures soient planes et non plus repliées de cette façon-là ferait que cet effet de polarisation des molécules d'eau pourrait s'exporter au-delà de une ou deux couches de molécules d'eau. Alors c'est là qu'apparaît la controverse. Je ne suis pas un spécialiste du domaine. Je crois mes collègues quand ils me disent ça s'arrête à deux couches, mais dans la littérature, on trouve parfois que ça peut aller jusqu'à 180 nanomètres. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas. Et j'essaie, depuis que j'ai appris qu'il y avait un problème, à essayer de le comprendre. Bon, donc le modèle que je propose est le suivant, à savoir que cette eau lente serait en fait de l'eau qui serait plus ou moins rattachée aux membranes cellulaires. Alors la question est de savoir sur quelle distance, vous allez voir comment on peut expliquer cela. Tout le reste de l'eau serait l'eau dite bulk, donc qui serait en échange rapide avec les protéines, ce qui fait qu'on a l'apparence que le coefficient de diffusion est réduit. Mais en fait, l'eau est libre, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais il y aurait une quantité d'eau, à peu près 30%, qui est plus lente et qui serait de l'eau peut-être en interaction avec les membranes. Donc on comprend donc que dans ces conditions-là, toute variation de la taille de la membrane va entraîner une variation de la quantité d'eau lente qui va se traduire par une baisse ou une augmentation de la diffusion. Alors, comment essayer de résoudre la controverse ? Donc voilà les protéines, c'est un cartoon comme on dit, hein. Donc les molécules d'eau dans la couche d'hydratation, les molécules d'eau libre, tout ça, ça s'échange très rapidement, et en moyenne, ça donne l'impression d'une diffusion un peu ralentie, la moitié que pour la diffusion libre. Voilà la membrane, et ça a été dit tout à l'heure, il ne faut pas oublier que près de la membrane, on va trouver à l'extérieur le glycocalyx et à l'intérieur le cytosquelette. Ce sont également des structures protéiques extrêmement complexes qui organisent les molécules d'eau. Donc, pour expliquer 30% de l'eau ralentie, nous avons besoin d'une épaisseur d'environ 40 nanomètres. Donc la question que je pose, ce n'est pas une réponse, c'est une hypothèse, hein. Est-ce que par hasard, cette structure entre le glycocalyx et le cytosquelette, est-ce que cette structure serait capable d'expliquer, parce qu'elle emprisonnerait un peu la molécule d'eau, qu'elle structurerait la molécule d'eau, même sur 2-3 couches d'eau, hein, mais sachant qu'il y a une très très grande densité, expliquerait cette couche. En tout cas, sur le plan phénoménologique, ce modèle simple explique beaucoup de choses, explique que dès l'instant où il y a augmentation de la surface membranaire, eh bien, il y a une diminution de la diffusion parce que nous augmentons la couche d'eau lente. Ça explique la diffusion de l'anisotropie, l'origine de l'anisotropie dans la matière blanche. Quand on mesure la diffusion dans le sens des fibres, on a beaucoup moins d'interface avec les membranes que dans le sens perpendiculaire, où on va rencontrer donc tout un grand nombre de membranes. Et ça explique également que dans le cancer, comme on a une prolifération cellulaire, peu importe les tailles de la cellule, hein, puisqu'il y a des cancers à petites ou grandes cellules, l'augmentation de la densité membranaire va également se traduire, comme on l'observe, par une diminution de la diffusion. Donc, pour en terminer, si tout cela est vrai, ce qui est sûr, c'est qu'on voit des réponses beaucoup plus rapides quand on observe la diffusion de l'eau que les variations de débit sanguin. Mais pour l'interprétation, donc, ça reste encore une hypothèse. Et on passerait donc d'un postulat qui est un couplage entre débit sanguin et activation, tel qu'on l'utilise aujourd'hui, mais qui n'est pas encore bien compris, à quelque chose d'autre, donc une réponse beaucoup plus rapide, qui serait un couplage entre défludion, la dépolarisation des membranes, et la structure de l'eau, donc une couche d'eau lente qui augmenterait en quantité. Alors si on regarde les signaux qui sont observés en IRN, une fois qu'on a déconvolué la réponse visuelle par la durée de la stimulation, on peut retourner la réponse intrinsèque. Donc voyez en bleu la réponse intrinsèque hémodynamique, le pic est très retardé par rapport à une stimulation qui serait une impulsion de Dirac, si vous voulez. Et vous voyez que la réponse en diffusion est beaucoup plus rapide avec la précision qu'on peut avoir. Elle monte très rapidement et elle retourne beaucoup plus vite vers la ligne de base, mais de façon asymétrique. Et si vous vous rappelez de la courbe que j'ai montrée tout à l'heure en optique, donc c'est une méthode complètement différente. Là, il s'agit d'une coupe d'hippocampe. Là, il s'agit du cerveau d'un collègue. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais les courbes se ressemblent beaucoup. Donc, de là à dire qu'il s'agit du même phénomène, bon, il faut quand même être prudent. Ce que l'on sait également, c'est que ce phénomène de gonflement neuronal, donc il a été mis en évidence, je crois qu'il ne peut pas être discuté, il existe, il se fait au niveau des dendrites principalement, les cellules gliales également changent de forme, et en fait il y a des papiers récents qui simulent ce changement de taille cellulaire. En fait il s'agit de dépliement de structure de la membrane, hein, donc qui est extrêmement dynamique, et donc on pourrait penser effectivement que ce dépliement va exposer des charges qui vont polariser les molécules d'eau. Voilà, donc maintenant la question intéressante qui se pose, je n'ai pas de réponse, mais juste une suggestion anecdotique, c'est pourquoi est-ce que les cellules gonflent? C'est une hypothèse peu avancée peut-être, mais qui suggère un rôle de l'eau, donc je vous la présente. Bon, le potentiel d'action, on le connaît, on en a parlé. Ce que l'on sait, c'est que le cytosquelette a un rôle très important, peut-être même plus important que la membrane, dans le potentiel d'action. Les Japonais, qui sont extrêmement forts, ils arrivent à retirer le cytosquelette ou à éplucher la membrane et observent qu'en épluchant la membrane, le potentiel d'action persiste. Par contre, en retirant le cytosquelette, il n'y en a plus. D'où l'idée, en fait, que le cytosquelette pourrait jouer un rôle, à savoir que le fait que les lésions sodium pénètrent dans l'activation, les lésions sodium pourraient peut-être remplacer les lésions calcium, qui, eux, ont un rôle pour maintenir les brins du cytosquelette. Le brin du cytosquelette, donc, dans ce cas, se séparerait, ce qui serait à l'origine du gonflement cellulaire, et ce qui ferait un autre appel, donc, qui serait responsable de la réponse qui est non linéaire. Voilà. Donc, simplement, si ce modèle est vrai, le changement de structure de l'eau se traduirait forcément sur le plan des équations hémodynamiques par une production de chaleur qui est très petite, mais qui a été mesurée aussi. Non seulement on observe un changement de la membrane, mais également une petite production de chaleur. Donc, une hypothèse, ce serait que l'eau aurait un rôle non seulement dans la physiologie de l'activation via ce que je viens de dire, mais peut-être également pour rafraîchir le tissu cérébral activé, à savoir l'augmentation des débit sanguin pourrait avoir en partie pour origine de diminuer la température locale de façon à la maintenir stable. Voilà. Alors pour stimuler mes collègues à l'origine de la méthode BOLD, je leur dis souvent qu'ils devraient appeler leur méthode COLD. Mais bon, c'est encore une fois... Mais cette hypothèse est amusante, mais elle existe dans la littérature. Hein, donc le fait que l'augmentation des débit sanguin puisse être une des raisons du couplage. Donc voilà, l'eau pourrait avoir un rôle dans le potentiel d'action, dans le gonflement cellulaire, dans les transferts de chaleur. Et vous voyez que l'eau, elle n'est plus maintenant un acteur passif utilisé pour faire de l'imagerie, comme avec l'eau radioactive et l'eau aimantée. Elle aurait peut-être un rôle beaucoup plus actif dans le processus d'activation, Hein, et c'est pour ça que je dis provocateur, c'est plus l'eau molécule de la vie, mais c'est presque l'eau molécule de l'esprit. Je m'explique. Elle pourrait avoir un rôle dans le potentiel d'action par ce que je viens d'expliquer, mais d'autre part, elle pourrait également avoir un autre rôle. En effet, je vous ai expliqué que par des capteurs piézoélectriques, on pouvait voir des changements mécaniques dans le tissu activé liés à la dépolarisation. On pourrait, comme toutes les lois de la physique sont réversibles, on peut imaginer le contraire, à savoir que le neurone est lui-même un système piézoélectrique, à savoir que des changements mécaniques sur le neurone se traduisent par des changements de potentiel. Et donc, en fait, on pourrait même imaginer, sachant que dans une colonne corticale, on a une très grande concentration de cellules qui sont jointives, qu'une partie de l'information, du transfert d'information de cellule à une autre, se fasse par ce mécanisme. C'est-à-dire que quand un certain nombre de cellules vont changer de taille, les cellules qui sont à côté vont les ressentir et éventuellement changer leur potentiel. Donc on aurait quelque chose qui serait un peu en compétition avec la transmission synaptique. Voilà, c'est tout. Je vous remercie.
Merci.
Grosso modo, les membranes sont ce qu'on va appeler comme des enveloppes qui organisent les cellules en compartiments qui sont fonctionnellement distincts. Et le fait même que chaque compartiment à l'intérieur est caractérisé par des propriétés chimiques et même des éléments qui sont différents l'un de l'autre, les membranes vont principalement jouer le rôle de contrôle des échanges entre ces compartiments. Alors au niveau très microscopique, ces membranes apparaissent comme deux feuillets visibles au microscope, avec une épaisseur entre 7 à 8 nanomètres. Donc à l'échelle atomique, le principal composant des membranes cellulaires, plus principalement les membranes plasmiques, sont ce qu'on appelle des bicouches lipidiques, c'est-à-dire elles sont constituées principalement d'une molécule amphiphile avec une telle polaire, et puis des chaînes d'acides gras, et en s'associant en double couche, elle délimite ce qu'on va avoir comme enveloppe de la cellule. Alors, à cause de cette composition chimique, évidemment, le cœur est reconnu comme étant hydrophobe. Donc, ces membranes sont, dans des conditions normales, perméables uniquement aux petites molécules hydrophiles, aux molécules hydrophobes, et donc ne laissent pas passer tout ce qui est hydrophile. Alors, pour faire passer d'autres espèces, elles requièrent des objets qu'on appellera protéines transmembranaires qui, elles, vont s'occuper d'une manière très sélective, soit d'échanges ioniques, transport d'eau ou d'autres molécules, ou alors transporter et transmettre un signal entre l'intérieur, le cytoplasme, et le liquide extracellulaire. Dans la plupart des ouvrages, on représente donc cette membrane avec les objets qui y résident, mais vous verrez bien qu'on retrouve nullement ici l'eau à une échelle très proche, au voisinage des membranes, comme si elles jouaient un rôle secondaire. Et ce que je vais essayer de faire dans les prochaines minutes, c'est faire un focus sur cette eau qui est à l'interface et montrer par deux exemples quel rôle vraiment primordial elle peut jouer, soit dans le fonctionnement de certaines protéines, soit même dans l'intégrité de la membrane. Alors pour cela, je vais avoir recours à de la modélisation moléculaire. Donc c'est principalement représenter un système de particules, décrire les interactions entre elles par des interactions phénoménologiques très simples, électrostatiques, van der Waals, selon les propriétés des atomes, et puis toutes les interactions type intramoléculaire. Et le genre de calcul qu'on fait s'appelle la dynamique moléculaire, c'est-à-dire que grosso modo, on résout les équations du mouvement dans un ordinateur, et on a la faiblesse de croire que si nos champs de force qui décrivent les interactions élémentaires entre ces atomes sont bons, on va reproduire une certaine réalité qu'il faudra après confronter à l'expérience. Alors, les résultats de telles simulations par un ensemble de principes de mécanique statistique nous renseignent sur la structure moyenne de nos objets. Je représente ici une membrane avec un canal ionique et puis quelques ions dans la solution. Encore une fois, l'eau n'est pas représentée. Et un autre avantage de ces simulations, c'est qu'elles peuvent aussi renseigner sur la dynamique en fonction du temps échantillonné pendant les calculs. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ce que je vais essayer de faire, c'est montrer le rôle que peut jouer l'eau au voisinage des membranes. Et j'ai pris deux exemples. Un, qui est inhérent à la structure et l'intégrité de la membrane, donc c'est uniquement l'eau avec la membrane, et le deuxième, c'est le rôle que peut jouer l'eau dans des phénomènes tels que l'excitabilité cellulaire et donc dans le fonctionnement de protéines membranaires. Alors, si on regarde de très près les résultats d'une simulation, on retrouve en fait que la structure de la membrane n'est pas du tout telle que je l'ai représentée tout à l'heure, c'est-à-dire que l'interface entre le lipide, le corps hydrophobe et l'extérieur est très rugueuse et que l'eau y réside sur une large gamme d'échelles. Ici, je représente les densités, c'est-à-dire la probabilité de trouver de l'eau, de trouver une espèce quand je pars de l'intérieur de la membrane vers l'extérieur. Donc on retrouve le corps hydrophobe, les têtes polaires et l'eau qui passe de sa densité normale, loin de l'interface, à une densité zéro lorsque l'on se rapproche. Alors chacun a évoqué durant les dernières interventions une propriété de l'eau pour décrire un petit peu l'importance. Ici, je ne vais pas parler de la dynamique de cette eau, qui est très intéressante, mais je vais plutôt parler de ses propriétés électrostatiques. Et cette eau qu'on va appeler l'eau interfaciale. Alors, effectivement, lorsque l'on part du milieu de la membrane vers l'extérieur, on peut dernièrement mesurer une différence de potentiel qui est due uniquement au fait que les lipides eux-mêmes ont un dipôle, donc qui s'orientent, et que l'eau vient contrecarrer, l'eau interfaciale contrecarrer ce dipôle, mais le total entre le lipide et l'eau fait en sorte qu'on a une différence de potentiel de quelques centaines de millivolts entre l'intérieur de la membrane et l'extérieur de la membrane. Alors ça c'est très important parce qu'il en résulte un champ électrique, si vous avez l'intérieur de la membrane et les deux interfaces, qui est toujours orienté vers l'extérieur de la membrane et qui va lui-même contribuer à cette propriété qu'ont les membranes de séparer les deux milieux. Alors on voit bien ici que si on arrive à perturber ce champ électrique, on peut perturber énormément l'intégrité de la membrane. En effet, lorsqu'on a des cellules et qu'on applique un champ électrique très externe, deux observations ont été faites, il y a maintenant une trentaine d'années. C'est-à-dire que lorsque le champ électrique est très faible, on a une rupture, mais elle est très réversible de la membrane. Et lorsque le champ est très fort, on a une rupture irréversible. Alors du point de vue application, c'est très intéressant. Parce que pour ce qui est de réversible, lorsque l'on a une cellule et on applique un champ électrique et on a une espèce qui est à l'extérieur, on peut vectoriser des molécules à l'intérieur. Ici, c'est l'exemple de l'ADN vectorisé dans des organelles. Ou alors des applications vraiment biomédicales, où là, on vectorise des molécules anticancéreuses dans des tumeurs cutanées. Dans le cas de ce qui est réversible, c'est tout simplement faire exploser une cellule et donc tuer un micro-organisme. Alors, en simulation, pour nous, c'est assez facile. Donc, j'ai représenté tout à l'heure les variations du potentiel électrostatique où on retrouve le dipôle aux interfaces, avec ce qu'on va décrire comme, dans le cas neutre, un potentiel transmembranaire qui est égal à zéro, c'est-à-dire pas de variation du potentiel transmembranaire. Les cellules humaines ont en général un potentiel transmembranaire très faible, quelques dizaines de millivolts. Et lorsqu'on en va appliquer un champ électrique, ce qui est facile au point de vue de simulation, on va créer un potentiel transmembranaire entre l'extérieur, une différence de potentiel transmembranaire entre les deux côtés de la membrane. Et ceci est dû principalement à la réorientation du dipôle de l'eau. Donc là, on agit sur le dipôle de l'eau et on casse le déséquilibre entre les deux. On peut faire la même chose en mimant ce que c'est qu'une application d'un voltage transmembranaire. Donc là, on a juste une distribution de charge asymétrique et on voit encore une fois, pour une membrane, on casse la symétrie entre les deux. Alors lorsque l'on regarde maintenant le champ électrique correspondant, on a effectivement complètement détruit, à partir d'un certain voltage, la symétrie non seulement entre les deux, mais on commence à avoir une grosse perturbation d'un des côtés de la membrane. Lorsque l'on regarde en dynamique ce qui se passe, tout simplement, en appliquant ce champ-là, on désintègre l'intégrité de la membrane, on commence à former des conduits à l'intérieur du corps hydrophobe, qui normalement ne peuvent pas exister sans le stress. Et lorsqu'on regarde différentes sections temporelles de ce qui se passe, on voit bien qu'à très bas temps, c'est l'eau qui va faire tout le travail, c'est-à-dire qu'on va, en polarisant les molécules d'eau, en faire pénétrer quelques-uns qui vont former un filet d'eau lui-même autour duquel les têtes des lipides polaires vont venir stabiliser un port qui peut avoir des diamètres de plusieurs angstroms, voire quelques nanomètres. Et donc c'est ces conduits hydrophiles qui vont servir de canaux pour transporter les espèces. Alors, lorsque l'on fait la chose inverse, c'est-à-dire que On a créé le port. Quand on enlève le stress, on revient à 0 millivolt. Le corps hydrophobe reprend nature et bien sûr, l'eau est complètement rejetée de l'autre côté de la membrane. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque l'on pose à une espèce? Ici, c'est une petite simulation d'un brin d'ADN posé à l'interface de la membrane. On voit qu'avec l'application d'un champ, on a créé ces pores et c'est à l'intérieur de ces pores que l'ADN va se positionner pour former un complexe ADN lipide en analogie avec l'expérience, en accord en tout cas avec l'expérience, qui est assez stable. Donc la formation des pores par électroporation, en tout cas, c'est ce qu'on voit, est vraiment nécessaire avant la translocation, ce qui veut dire que c'est l'eau qui fait le maximum du travail. Alors là, on a vu une membrane, un corps complètement hydrophobe, des lipides qui ont leur propre dynamique et les molécules d'eau à l'interface. Donc on imagine bien que dans un processus biologique, ou je dirais biophysique à mon échelle, impliquant les membranes, l'eau va jouer des rôles dans différents mécanismes. Une protéine périphérique comme une lipase qui s'approche pour commencer à faire son travail, l'eau va médier en principe son interaction avec la membrane. Dans un canal, on imagine bien que l'eau est essentielle pour le transport. Le conduit hydrophile est fait principalement par l'eau. Dans une membrane, dans une protéine membranaire comme un récepteur couplé aux protéines G qui demande pour son activation l'approche d'un ligand, l'eau va parfois jouer un rôle extrêmement important dans la médiation des interactions, dans la poche d'interaction. Mais ce n'est pas vraiment de cela que je veux parler. Je veux parler de quelque chose qu'on, dans de telles images, on ignore un petit peu et qui est devenu trop important pour qu'elle soit caractérisée. Et c'est la présence de l'eau à l'intérieur même d'une protéine transmembranaire, laquelle... Logiquement, on pense que le corps, la région transmembranaire d'une protéine est toujours hydrophobe. Et c'est ce qu'on a trouvé dans les canaux ioniques. Enfin, je dis « on », c'est-à-dire la communauté. Alors, les canaux ioniques, bref rappel, on les retrouve dans les cellules excitables. Et leur travail consiste à produire des faibles courants électriques. On les retrouve dans les neurones et les fibres musculaires. Et depuis le travail pionnier de Hodgkin et Huxley, déjà stipulé que c'était dû à la présence d'espèces dans les membranes qui, eux, servent de transporteurs d'ions. Alors, ils sont à l'origine, bien sûr, de ce qu'on appelle le potentiel d'action. Grosso modo, on a une cellule au repos et toute une série de canaux ioniques s'ouvrent et se ferment pour laisser passer soit des ions sodium de l'extérieur vers l'intérieur ou inversement des potassium dans l'autre sens jusqu'à équilibrer le potentiel d'action et revenir au milieu. Alors, les connaissances se sont accumulées dans les années 80. On a commencé les toutes premières séquences, que ce soit d'un canal sodium et un canal potassium, de ce qu'on en a appelé les canaux sensibles à la tension. Alors, sensibles à la tension, pourquoi? Parce que ces canaux vont s'ouvrir ou se fermer uniquement lorsqu'il y a un potentiel transmembranaire. Il y en a d'autres qui s'ouvrent et ferment par un ligand, par un stress. Ceux-là sont sensibles à la tension, c'est-à-dire que c'est une variation du potentiel transmembranaire qui les fait ouvrir et fermer. Au-delà du courant ionique qui a été mesuré tout au départ, à savoir le passage de d'ions à travers un port central, donc on a ici un canal transmembranaire, enfin un canal ionique sensible à la tension fermé avec une porte, et dans l'état ouvert, on voit bien qu'on va pouvoir enregistrer des canaux ioniques, enfin des courants ioniques. Alors, au-delà de ça, les premières mesures ont été faites sur ce qu'on a appelé le courant de charge. Et ça a été identifié, en fait, non seulement, non pas comme un transport d'ions, mais un déplacement de charge lié au canal. Ce qui a permis, avec le séquençage, de commencer à raisonner sur des schémas très simples qui permettent d'expliquer que le domaine sensible à la tension, qui, ici, dans la séquence, a été identifié comme étant porteur d'énormément de charges positives, ce qui est ubiquitaire à tous les canaux ioniques sensibles à la tension, réagit à la différence de potentiel dans la membrane, bouge pour pouvoir ouvrir le port et on a la conduction. Alors dans le modèle conventionnel, ces hélices qui sont porteuses de charge sont imaginées comme monter et descendre tout simplement dans un cylindre creux en réponse et leur mouvement fait en sorte que le gate en bas s'ouvre et se ferme. Lorsque l'on fait une estimation énergétique de ce que serait l'excès d'énergie libre associé à la différence de conformation et à la différence de potentiel qu'il induit. On montre tout simplement que cet excès d'énergie libre est lié directement à la différence de potentiel que l'on applique, mais également au champ, au potentiel électrostatique local où sont les charges. Donc on ne parle plus maintenant de différence de potentiel entre le haut et le bas de la membrane, mais exactement là où est le résidu qui est chargé. Et ça, ça a une importance capitale, parce que ça veut dire qu'il suffit que l'environnement local des charges varie pour que l'on transporte les charges et que l'on ait le courant de charge. Et ça, ça a permis de déposer un modèle, si on veut, où ce n'est pas les hélices qui montent et qui descendent en fonction du champ appliqué, mais l'environnement autour, et donc principalement l'eau, qui va jouer le rôle de modérateur et permettre à l'ensemble de la structure de bouger pour pouvoir ouvrir le gate. Et c'est ça ce qu'on va essayer de tester en modélisation. Alors on a commencé un peu tôt, à l'époque il n'y avait pas de structure cristallographique de canal potassique ou de canal de toute autre sorte, qui était sensible à la tension. Donc on a effectué un modèle simple, tridimensionnel, qu'on a mis dans une membrane, on a effectué des simulations de dynamique moléculaire, où on a regardé deux états, un état qu'on essaye d'activer en appliquant un potentiel et un état au repos. Et les résultats ont été assez surprenants parce qu'on a pu voir non seulement que dans la région transmembranaire où est le voltage, le domaine sensible à la tension, on avait déjà énormément d'eau, que cette eau était coupée par des régions où il y avait ces charges d'arginine positive, donc il n'y a pas de lien entre l'extracellulaire et l'intracellulaire, mais lorsque l'on applique une différence de potentiel, on augmente la densité d'eau autour, ce qui permet une meilleure flexibilité, et donc c'est la première fois qu'on peut dire vraiment directement on a observé une différence de l'environnement autour, qui va permettre à ces objets non seulement de bouger d'une manière plus facile, mais aussi de moduler l'ouverture du gate. Et ça, c'était déjà plus ou moins postulé par des mesures expérimentales en 1997 et en 2004. Alors, le potentiel électrostatique, lorsque l'on regarde à trois dimensions, on peut le représenter ici par un code couleur. Donc on a la membrane avec un potentiel qui est haut. On rappelle toujours qu'il y a une différence de potentiel entre solvant et interface. Mais ce que l'on voit, c'est que la cartographie du potentiel électrostatique au voisinage des domaines sensibles à la tension déjà indique une présence d'eau qui est énorme. En 2D, si on représente maintenant la représentation des hélices où se trouvent ces charges qui font le maximum de travail, on trouve qu'ils sont dans une région où la différence de potentiel local sur une toute petite distance peut être énorme. Cela veut dire qu'on n'a pas besoin de bouger la structure beaucoup pour avoir une grande, un déplacement de charge très important. Et lorsque l'on passe de l'état fermé à l'état dépolarisé, il y a sans grand mouvement de S4, il y a une grosse modulation de cet environnement-là. Alors, heureusement, en 2005, la première structure du canal potassique sensible à la tension pour les mammifères a été résolu par McKinnon, ce qui nous a permis de refaire à peu près le même travail, mais maintenant avec des structures pour lesquelles on avait une certaine assurance. Et ce qu'on retrouve, c'est exactement les mêmes types de schémas qu'avant, c'est-à-dire un modèle plutôt convaincant qui est celui du modèle de transporteur. Donc, deux informations capitales, encore une fois. L'eau pénètre vraiment très profondément dans la structure, et j'essaierai de vous convaincre par la suite, que cette eau-là, dans ce domaine transmembranaire qu'on voit ici, peut jouer d'autres rôles. Donc là, si vous voulez, c'est la structure cristalline résolue, qui est bien équilibrée dans un environnement membranaire pour le canal. Et ce qu'on voit, c'est un ensemble de la position des arginines, des charges qui sont importantes, qui sont ubiquitaires à cette hélice S4 qu'on retrouve dans l'ensemble des canaux, et les deux domaines de l'eau. Donc là, on est vraiment au milieu de la membrane et l'eau, elle arrive jusqu'ici. Alors, il y a plusieurs manips qui ont montré qu'une petite variation d'un résidu ici peut faire passer le canal d'un transporteur de protons à un non-transporteur de protons. D'ailleurs, la nature a imaginé déjà des protéines qui marchent comme ça. Mais en tout cas, cette structure est en parfaite adéquation, enfin en tout cas accord avec pas mal de résultats expérimentaux. Donc je vous dis qu'on avait observé en fait qu'il y a des ponts salins qui impliquent ces résidus très importants. donc positifs, avec d'autres résidus de la structure, et qui vont, eux, constituer une constriction, vraiment dans cet enchevêtrement-là que j'ai représenté en bleu, qui est l'accessibilité principalement du domaine de l'eau. Alors, ce qu'on découvre, c'est qu'en fait, dans une structure comme celle-là, si l'on fait une mutation d'un seul résidu, qui est impliqué dans un pont salin, résulte en une structure où on a un conduit hydrophile qui est capable de transporter des ions de l'extérieur vers l'intérieur. Et ça, ça a des implications majeures. D'ailleurs, ça a été stipulé et observé. C'est que la mutation de résidus chargés dans plusieurs structures a montré qu'il y avait des courants de fuite. C'est-à-dire que là, un endroit où on n'est pas supposé conduire des ions, du potassium ou du sodium, devient le conducteur. Et il est intéressant de voir que sur un ensemble de canaux tenant à différents gènes, la mutation d'un des résidus, tout comme on l'a vu avant, localisés tous dans la région S4 et tous des arginines, va donner naissance à une série de pathologies, type paralysie, myotonie, etc., qu'on va retrouver dans un ensemble de canaux. Donc là, ça vous explique grosso modo comment l'eau, par sa structure et ses propriétés à l'intérieur de molécules aussi intéressantes que ces canaux ioniques, peut être impliquée dans des maladies qu'on identifie aujourd'hui comme maladies génétiques et qu'on essaie de retracer. En conclusion, je vais juste revenir sur les deux principaux messages que je voulais transmettre. Un, c'est l'eau interfaciale dans les membranes, non seulement elle participe à la stabilité et à l'intégrité de la membrane, comme j'ai dit, à cause de son dipôle, mais elle est aussi à l'origine de sa rupture en cas de stress électrostatique, comme on a vu dans les phénomènes d'électroporation. Elle n'est certainement pas restreinte au milieu extra et intracellulaire, mais elle peut participer et jouer un rôle fondamental dans le fonctionnement de certaines protéines transmembranaires. Et finalement, à cause de ça, elle peut être impliquée aussi dans leur dysfonctionnement. Donc, sur ce, je vous remercie. Je voulais juste noter que l'ensemble des calculs qu'on a faits sont grâce aux moyens que la France a finalement réussi à avoir. Et je suis sûr que dans l'assistance, il y a pas mal de gens qui ont contribué à pousser à cette décision. Merci bien.
Vous venez d'entendre Tarek Mounir, directeur de recherche au CNRS. Il évoquait le rôle et l'importance de l'eau dans les membranes cellulaires. Auparavant, vous avez pu entendre Denis Le Bihan, membre de l'Académie des sciences, sur la membrane, l'eau et la diffusion des potentiels pour la neuroimagerie. Deux communications qui s'inscrivaient dans le cadre d'une séance de l'Académie des sciences qui portait sur l'importance de l'eau dans les systèmes biologiques. C'était en mars 2009. Restez à l'écoute de Canal Académie et téléchargez la deuxième partie de cette séance, retransmise sur notre site canalacademie.com. Vous la trouverez dans l'onglet « Les émissions » en séance, rubrique « Académie des sciences ». Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.